Mercedes-Benz.
C'est bien connu. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée, espérer que le temps soit clair et idéalement être équipé d'un télescope. Sauf du 1er au 30 juin chez Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour et à l'œil nu. Pendant les Star Days, profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Ne laissez pas filer votre future étoile. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, présent, fidèle sur BFM Business, comme chaque soir, c'est Tech & Co, la quotidienne, je suis très heureux de vous retrouver. Avec un Tech & Co un peu particulier ce soir, puisque ça y est, c'est le coup d'envoi de VivaTech, cette édition 2024, huitième édition déjà de ce grand salon dédié à l'innovation à Paris, Porte de Versailles. Évidemment, beaucoup de monde, on attend 2800 exposants, des dizaines de milliers de visiteurs. Et puis, l'intelligence artificielle qui est partout, à tous les étages, évidemment, de ce grand salon. Avec au sommaire, pour ce premier Tech & Co, donc depuis VivaTech. Dans un instant, je recevrai la secrétaire d'État au numérique. Elle sera sur notre plateau, Marina Ferrari, avec laquelle on reviendra sur les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, concernant l'intelligence artificielle. Autre invité prestigieux, un porte-parole d'Airbus. Où en est l'avion à hydrogène? Comment décarboner l'aviation? On en parlera tout à l'heure. Et puis, je recevrai, l'intervenant, l'ouvrier augmenté grâce à des exosquelettes. Et ce sera par le biais de Bionic Systems, une start-up allemande qui présente ici des exosquelettes passionnants. Voilà ce qui vous attend pour cette première heure. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne. Et tout de suite, on commence bien évidemment par le débrief de VivaTech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et pour débuter ce premier Tech & Co, la quotidienne depuis VivaTech, quel plaisir de se retrouver à la maison, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que, premièrement, on est à quelques centaines de mètres de nos plateaux, et puis ça fait plaisir de voir qu'il y a ce salon tech qui émerge à la fois en France, mais aussi au niveau européen. Et pour débuter donc, notre débrief, premier débrief de ce VivaTech avec Julien Villery qui est là. Salut Julien.
Bonjour François.
Directeur de l'innovation chez EDF. Et à tes côtés, c'est Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Bonjour François, bonjour à tous.
Jérôme, que vous connaissez bien évidemment, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Et j'imagine que tu vas en mettre partout là pendant les trois prochains jours. Monde Numérique va être aux couleurs de VivaTech, tout comme nous d'ailleurs.
Voilà, incontournable.
Je tenais à vous le rappeler, si vous êtes de passage à VivaTech, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On est à côté du stand de 3, exactement, le plateau de BFM Business, durant tout cet événement jusqu'à samedi prochain. Messieurs, donc voilà, premier jour, toujours une bonne nouvelle. On célèbre la tech, ça fait plaisir, dans un contexte d'actualité qui est parfois un peu lourd. Ça fait plaisir de voir que cet événement tient la route, fonctionne, intéresse tout le monde au-delà de nos frontières, puisqu'il y a beaucoup d'invités prestigieux. Il y a les sœurs Williams qui viennent ici, il y a John Kerry, Visio,
Elon Musk
avec une Visio encore une fois, enfin il y a la patronne de X aussi,
Linda Iaccarino
qui vient faire un petit coucou ici. Alors ça vient juste de commencer le CES, parce que pour être totalement transparent avec vous, on a enregistré cette émission au milieu de la journée.
Alors c'est pas le CES.
Pardon, j'ai dit CES, mais non, c'est VivaTech.
Lapsus révélateur.
Tiens, justement, commençons par ça, Jérôme. Ouais. Parce qu'il y a une petite guéguerre concernant le taux de fréquentation de ces salons tech. Et souvent, on compare VivaTech au CES, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Oui, mais en même temps, c'est un peu inévitable. C'est vrai que c'est un peu le pendant européen du CES, etc. Mais c'est vrai que quand on se penche sur les chiffres, moi, je me faisais la remarque en préparant cette émission, il y a un petit truc qui est bizarre. Malgré l'enthousiasme, le soutien, le support qu'on peut formuler, VivaTech annonce, il prévoit cette année 150 000 visiteurs, je crois. Et le CES, l'an dernier, aurait reçu 130 000 visiteurs seulement. Donc, on connaît, toi et moi, le CES, on connaît VivaTech. Bravo, VivaTech, c'est super. Mais ne serait-ce qu'en termes de surface, c'est pas la même chose. Julien peut en témoigner aussi. Entre Gary Shapiro et Maurice Lévy, est-ce qu'il n'y en a pas un qui se trompe, quoi?
Et c'est vrai que, je disais en préambule qu'il est difficile, Julia, de comparer les deux salons. Parce que Bon, ici, déjà, alors c'est un salon pro, mais le dernier jour, le samedi, est ouvert au grand public. Il y a beaucoup d'invitations aussi. C'est un salon qui est très généreux, qui offre beaucoup d'invitations pour que les gens puissent venir découvrir la tech. Je suis pas persuadé que ce soit la même organisation à Las Vegas.
Alors effectivement, c'est assez différent. Ici, effectivement, il y a la journée grand public, comme tu l'as dit, et donc ça attire beaucoup, beaucoup de monde, et en particulier beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants
bien
qui
sûr.
Viennent voir
c'est
les différentes
top.
Marques,
c'est
voir
top.
Les différentes startups. Et donc c'est vrai que la grosse journée, à ma connaissance, de Vivatech, c'est le samedi, même si on peut l'entendre, il y a déjà beaucoup de monde en cette journée, la première journée. Et puis, il y a aussi la dimension online qui est assez différente, c'est qu'à Vivatech, il y a une grosse audience qui se connecte online pour écouter en particulier les conférences qui sont retransmises en direct, en online. Et c'est moins le cas au CES. Il y a aussi des conférences online au CES, mais c'est moins le cas. Donc, il y a probablement aussi une agrégation des chiffres qui est un peu différente entre ceux qui sont annoncés par le CES, qui sont des visiteurs physiques, et ceux qui sont annoncés par Vivatech, qui sont un mélange de visiteurs physiques et de visiteurs online.
Oui, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si tu te souviens, Jérôme, l'année dernière, il y avait eu une espèce de bataille des chiffres où les organisateurs de Vivatech faisaient le parallèle avec le taux de fréquentation du CES en disant ben, on a été plus fort que le CES. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais...
Enfin, il y a du monde hein, quand même, honnêtement.
Non, mais bien sûr, il y a
chaque
du monde.
Année, on se dit tous à la fin de Vivatech, c'était la folie en
Tout
termes de fréquentation.
Mais c'est vrai que le CES a une vocation internationale immense. Qui, à mon avis, est difficilement comparable. Mais bon.
Alors, moi, je trouve quand même que, et ça, vraiment, on peut le porter au crédit du Vivatech et des organisateurs, c'est la dimension internationale qui était voulue dès le début et qui arrive à se maintenir, hein, parce que tu citais quelques prestigieux speakers. On pourrait y ajouter, effectivement, Robin Lee, le PDG de Baidu, il y a le patron de Shopify, il y a Eric Schmidt, il y a Yann Lequin, Joshua Bengio, etc. Et quand même, un, c'est des têtes d'affiche, deux, c'est des têtes d'affiche du monde entier. Donc, y compris des Chinois, il y a aussi des Indiens, etc. Donc,
et les Japonais cette année.
Les
Japonais arrivent en force.
Le Japon est à l'honneur.
Puisque le Japon, en fait, était un pays qui était très en retard, on va se le dire, sur le monde des startups, et qui, depuis 2-3 ans, a essayé, finalement, imiter un peu la French Tech, parce que ça a été l'un des modèles, hein, c'est eux-mêmes qui le disent, du modèle japonais, et ils essayent maintenant de revenir dans la course des startups.
Julien, qui vient ici, en fait, en termes des exhibiteurs, on va dire, les marques qui viennent ici, c'est un peu tous les profils de boîtes qui viennent ici, les entreprises.
Il faut bien se souvenir que Vivatech, il est né de cette idée de collaboration entre les grands corporates, comme on dit, donc les grandes entreprises et les startups. C'était vraiment l'idée de départ et qui perdure. Et donc, on a vraiment ce mélange de très grandes entreprises qui viennent montrer ce qu'ils font en innovation et toutes les startups de l'écosystème qui, parfois, sont toutes naissantes, parfois, on commence à être presque des scale-up et qui viennent essayer de créer finalement ces relations entre les startups et les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que la startup, elle cherche quoi ? Des financements. Il y a des investisseurs qui se baladent dans les allées et qui regardent les startups, mais elles cherchent aussi des clients. Et souvent, les clients des startups, c'est les grandes entreprises.
C'est ça.
Je prends un exemple. Il se trouve qu'on a fait pour Vivatech l'exercice hier avec nos directions des achats. On a regardé le groupe EDF en France travaille avec 800 startups et ça représente 150 millions d'euros par an de relations commerciales. Et là, je ne parle pas d'expérimentation, de POC. Je parle vraiment d'achat
auprès des startups. De business.
Donc, si EDF fait ça, on peut imaginer que toutes les grandes marques qui sont présentes sur Vivatech ont aussi, eux, beaucoup, beaucoup de relations commerciales avec les startups. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, à Vivatech, c'est ce côté, la grande entreprise et la startup ne s'opposent pas, mais travaillent ensemble.
Jérôme ?
Ben, c'est vraiment ça la particularité et on a l'impression que la mayonnaise prend. Alors au début on était un peu perplexe parce que on disait bon LVMH sur un salon de tech, des marques comme ça, on était un peu dubitatif. Et puis finalement via les startups, via le discours très pro-tech, etc. On finit par y croire et c'est aussi pour ces marques l'occasion de bomber le torse et de montrer à quel
Bien
point
sûr.
Elles sont innovantes, elles sont versées dans la technologie, même si après on sait que parfois en interne ça peut être un peu plus délicat à mener certaines transformations. Suivez mon regard.
C'est clair.
Mais il va vers qui ton regard?
Pas vers toi, pas vers vous.
J'espère bien.
Il m'a regardé moi, alors je sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse une transformation numérique.
Non, mais il y a des vieilles boîtes du CAC 40, c'est plus difficile de passer.
Les enjeux de cette transformation numérique des entreprises est capital aujourd'hui.
Mais ça avance néanmoins,
évidemment.
Vraiment bien.
Alors, bien sûr, l'année dernière on parlait d'IA, cette année on en parle encore plus, il y a de l'IA partout. Dans ce Vivatech, après il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie, hein, comme on dit. Il y a les tours de passe-passe marketing qui nous font croire qu'il y a de l'IA, et puis après il y a de vraies innovations. Julien, l'intelligence artificielle obligatoire aujourd'hui?
C'est absolument essentiel d'un point de vue presque philosophique pour les États, et on voit bien que la France fait un push énorme sur le sujet de l'IA, on pourra y revenir. Indispensable pour les marques en termes de marketing peut-être, mais enfin aussi en termes de business, parce qu'il y a quand même une très grande crainte dans les entreprises, c'est de se dire si je ne suis pas en particulier avec l'IA générative aux avant-postes, les autres vont l'être et donc je vais me faire piquer mon business. Et puis dans ce côté très à la pointe, très innovant, et en particulier dans des sujets qui moi me frappent beaucoup sur la robotique, c'est-à-dire l'association IA robotique, et pour m'être promené déjà un petit peu ce matin sur Vivatech, partout. Ouais. Partout, c'est robot plus IA. C'est-à-dire, comment avant, j'avais des robots qui étaient gentils, mignons, cute, mais enfin, ça faisait pas grand-chose. Ouais. J'ai de l'autre côté des modèles d'IA générative qui, on l'a tous vu maintenant, commencent à être conversationnels, commencent à avoir vraiment des capacités, j'oserais pas dire de réflexion, mais en tout cas de faire semblant de réfléchir. Et quand on associe les deux, multimodaux maintenant, effectivement, quand on associe les deux, on se retrouve avec des robots intelligents. Alors, des robots intelligents éducatifs, mais aussi des prothèses qui deviennent intelligentes par elles-mêmes. Très frappant cette année, Tesla a un stand. Tesla n'a jamais de stand nulle part, mais Tesla a un stand à Vivatech et il présente Optimus. Alors, il ne bouge pas, mais Optimus, c'est le robot IA de Tesla.
Enfin, bref, c'est une maquette, je crois.
C'est une maquette, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que robotique plus IA, c'est un sujet là vraiment d'actualité cette année.
Voilà, c'est le robot humanoïde, Optimus, qui est vraiment impressionnant. Et on peut imaginer que si on lui rajoute toute la technologie Tesla avec la captation de l'environnement et puis de l'IA, ça pourrait être quelque chose d'assez impressionnant. Jérôme, tu es d'accord avec Julien?
C'est la convergence naturelle, de toute façon, l'IA et le robot. Parce que, effectivement.
C'est le fantasme aussi.
Bien sûr.
De dire jusqu'où on va aller.
Parce qu'on est bien d'accord. Le but étant de créer des machines qui vont nous dominer. Donc, il faut de la force physique.
Qui vont nous aider.
Je me suis trompé de mot. Il faut de la force physique et de la capacité cognitive. Donc, c'est vraiment le mariage de raison. Tu as tout à fait raison de relever cette association. Après, pour revenir un peu sur le côté business, l'IA, ça draine aussi beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Et il faut rappeler qu'il y a une semaine, se tenait en France le sommet Choose France, où encore une fois, et là on peut dire cocorico, les investisseurs étrangers ont montré leur intérêt pour la France, malgré tout, et notamment pour toutes ces boîtes qui vont sur l'IA. Alors on n'est pas les seuls, on est sur un marché hyper concurrentiel, il y a des ténors, il y a OpenAI, il y a Google, il y a tout ça. Mais comme d'habitude, je pense qu'on va arriver à se trouver des niches avec Mistral, avec peut-être cette nouvelle boîte là dont tout le monde parle, alors que le salon vient à peine d'ouvrir, la start-up H, mystérieuse start-up française qui vient d'émerger.
Anciennement Holistic, je crois.
Oui, en tout cas, je vous invite à lire leur communiqué de presse. Il y a vraiment tous les buzzwords. Mais on ne comprend pas très bien ce qu'ils font. Mais il y a tous les buzzwords. Ouais. Ça, c'est parfait.
Mais ils ont des investisseurs prestigieux.
Ils ont des investisseurs tout à fait prestigieux et des têtes pensantes très prestigieuses. Ouais. En particulier, pas mal de gens qui viennent de DeepMind. Et on connaît DeepMind. C'est vraiment la start-up issue de Google qui est la plus avancée sur les questions d'IA appliquées à des sujets très sérieux, en particulier les protéines, les médicaments, etc. Enfin, des sujets très, très intéressants.
Oui, cette boîte qui a été annoncée hier, en fait. Qui est un peu secrète, on fait souvent l'analogie avec Mistral, parce que c'est on va dire des têtes pensantes françaises avec des investisseurs au départ français, même si Mistral aujourd'hui est une boîte avec beaucoup d'investisseurs américains, mais c'est vrai qu'on fait souvent l'analogie entre les deux.
Oui, et puis il y a Anthropic qui vient maintenant en Europe avec Claude, et Anthropic est présent sur Vivatech, ce qui est aussi un signe assez, assez intéressant.
Claude, qui est un peu un ChatGPT, un concurrent de ChatGPT, qui est disponible depuis quelques jours en France d'ailleurs et qui est gratuit.
Exactement. Claude, et Anthropic, c'est des anciens d'OpenAI qui ont créé Anthropic avec cette idée de poursuivre la mission originelle d'OpenAI qui était d'avoir une IA plutôt respectueuse, plutôt éthique, etc. Pas pour dire qu'OpenAI ne l'est pas, mais en tout cas c'était la volonté des gens d'Anthropic. Et donc ces différentes boîtes IA, c'est très intéressant parce que pour la France, je l'espère, on verra, et c'est ce que Eric Schmidt dit. Alors Eric Schmidt, ancien président de Google, peut-être qu'il dit ça pour nous faire plaisir, je ne sais pas. En tout cas, il dit globalement, il y a trois grands mondiaux sur l'IA aujourd'hui. Il y a les US, il y a la Chine et il y a le UK, donc le Royaume-Uni. Et la France est quatrième, et on voit vraiment un gros potentiel pour la France avec effectivement Mistral, avec effectivement H et d'autres. Donc ça serait quand même assez intéressant que la France réussisse à se positionner, et c'est la volonté du gouvernement. On va voir si ça fonctionne.
Alors je vais faire le râleur une fois de plus. c'est super tout ça. Pourquoi on est coté? L'une des raisons, c'est qu'on a des gros cerveaux. Parce qu'on a des super universités, écoles d'ingénieurs, filières pour former des tronches en intelligence artificielle.
On a une culture de l'enseignement mathématique qui paye aujourd'hui.
Puis peut-être un esprit cartésien cultivé de génération en génération qui se prête à peu près bien à ça. Après,
un peu, comme un, petit toi, peu... Jérôme, un peu comme ton profil.
Oui, on va finalement. Dire ça, ouais, c'est gentil. Et ça, c'est pour me dire que je suis psychorigide. Dans deux minutes, tu sais, il va m'expliquer que je suis du cartésianisme au psychorigidisme, il n'y a qu'un pas. Mais juste pour finir, c'est super, c'est super. Et en plus, on rappelle, accessoirement, les études ne sont pas très très chères chez nous, hein, contrairement aux US ou aux UK, etc. Et il y a un phénomène qui est quand même qu'il y a beaucoup de cerveaux qui se forment ici, parce que c'est pas cher, y compris un tout petit nombre de cerveaux étrangers, ce qui est super, hein, des Américains et autres, qui viennent ici prendre des bonnes formations. Et après, ils ne restent pas tous en France. Hein.
Bye bye.
Et c'est pour ça qu'il y a autant de Français dans les start-up prestigieuses américaines aussi.
Parce oui, mais que, Jérôme, après, ils sont libres de leur choix.
Il y a des mots magiques, hein, oui, Centrale, Polytechnique.
Mistral et H, typiquement, c'est des anciens, alors de DeepMind, dans l'occurrence.
Oui, Jérôme, donc ils reviennent. Je dis pas
c'est vrai que les jeunes talents, voilà, bien sûr, souvent sont attirés par les sirènes américaines, hein, les Google et Microsoft.
Moi, je pense un peu moins, honnêtement. Je pense qu'il commence à y avoir, effectivement, des startups. Alors, l'IA, mais c'est vrai dans d'autres aussi, qui, et on voit bien qui les finance, hein. Si on prend H par exemple, c'est Bernard Arnault, c'est Xavier Niel, enfin c'est des milliardaires locaux français qui veulent développer ces business-là. Alors évidemment, sur le volume d'étudiants qui sortent des écoles, Julien, je suis d'accord, mais... il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, mais les signaux sont pas complètement nuls.
Ok, mais il y a un truc où les Américains sont imbattables, c'est l'appel du cash.
Et les incentives, la rémunération.
Mais c'est pas que les salaires, c'est les perspectives de participation dans les boîtes avec les IPO derrière. Ouais. Et tu as
si
beaucoup
tu
plus de perspectives.
En 50 et millionnaire,
exactement.
Quoi.
Voilà, exactement. Et ça, ils le savent, les jeunes qui sortent des écoles. Ils veulent pas forcément tous faire ça, mais il y en a beaucoup qui vont vers ça et on les comprend.
Julien, d'accord ou pas ?
Non, je suis d'accord. Je dis juste que on n'avait pas de signaux. On n'avait pas de signaux de ce type-là il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire ces startups très financées par des gens en local avec une volonté politique derrière. Enfin, je veux dire, tout le monde s'y met, quoi. Donc c'est plutôt positif. Après, sur le volume et sur la masse, évidemment, je suis d'accord. Ouais. Hein. C'est pas le plus grand nombre qui fait ça.
Le patriotisme a ses limites, quoi.
Franchement, si Mistral, et c'est pas le cas encore, hein, mais si Mistral devient un énorme de l'IA. Eh ben, on aura au moins réussi ça. Et on n'a pas besoin d'en avoir 50. Hein,
oui, mais il faut. Enfin, après, c'est presque sociétal, quoi. Il faut se déculpabiliser par rapport à l'argent. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui s'enrichissent beaucoup, etc.
Mais d'ailleurs, c'est un sujet. Hein. Emmanuel Macron, même Xavier Niel l'avait dit. Si on veut garder les talents, il faut les payer
évidemment.
Si on les payait aux États-Unis. Voilà, avec des, comme tu le disais, des intéressements, des choses comme ça. Autrement, ils s'en vont.
C'est,
après,
c'est
ils reviennent. Tu as raison.
Ils reviennent après, ouais, tout à fait.
Quand ils ont fait fortune,
ils ont fait fortune. Ils reviennent parce qu'il y a cet élan patriotique qui fait qu'ils ont envie de revenir en France. Alors, bon, Vivatech, on en parlera évidemment tout au long de cette émission. Demain encore, j'aimerais qu'on évoque aussi, en fait, le séisme qu'il y a autour de Vivatech et les annonces qui découlent de ce salon, et notamment hier, avec, on va dire, un discours assez fort d'Emmanuel Macron concernant la souveraineté de l'intelligence artificielle, à la fois chez nous, mais au niveau européen. Pas mal de choses intéressantes ont été dites en matière de puissance de calcul, en matière d'investissement. Un fonds européen va être créé pour financer des boîtes d'IA. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
C'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, quand on a UK-Chine-US, plutôt dans le sens inverse, US-Chine-UK, qui sont aux avant-postes, il y a une volonté française, en l'occurrence d'Emmanuel Macron, de mettre la France sur ce podium, en tout cas d'être pas loin de ce podium-là. Et puis il y a cette idée très européenne de souveraineté technologique, hein, qui est aussi portée par Emmanuel Macron et la France depuis maintenant plusieurs années sur plein de sujets. Donc oui, je trouve que c'est aussi plutôt une bonne nouvelle de se dire, est-ce que l'Europe... régulatrice, hein, puisqu'on sait très bien que l'Europe, elle est forte pour faire une chose, c'est réguler, et si possible réguler avant même d'avoir réussi technologiquement. Est-ce qu'elle peut pas, en même temps qu'elle régule, essayer de développer ces technologies d'IA pour être forte? C'est plutôt intéressant. Après, on va voir ce que ça donne, mais je trouve que c'est une démarche, en tout cas, voilà, souhaitable.
Et Jérôme, tout ça est lié au sujet qu'on évoquait avant. On a les talents en France, essayons de les garder en créant des boîtes qui feront demain peut-être l'IA du futur.
Bien sûr. Bien sûr. Alors après, bon, bah, c'est pareil. Ça paraît aussi 400 millions, hein, c'est ça, pour un amorçage.
Enfin,
c'est pour amorcer la pompe. Ok, c'est très bien. Mais c'est vrai que si on rapporte ça aux dizaines de milliards américains, ça fait un peu, là encore, une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est pas grave. Il faut qu'il y ait ça. Après, il y a peut-être l'étape d'après. Moi, ce que j'entends souvent dire de la part des professionnels, des entreprises, c'est ok, très bien, mais ce qui manque encore, c'est la commande publique, c'est une DARPA pas à la française ou à l'européenne pour initier tout ça, pour passer des contrats avec le militaire, avec les grosses entreprises. Et puis aussi, pour rassurer les entreprises clientes et puis aussi pour pouvoir batailler contre les gros concurrents que sont Microsoft, Google, qui ont des forces de frappe marketing, commerciales gigantesques et qui veulent bien laisser des miettes, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais.
Oui, enfin là-dessus, cet exemple est intéressant parce que je suis une entreprise, je représente une entreprise française, une grosse entreprise, très grosse. EDF, ça fait 80 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est pas une petite entreprise. On est présent dans 70 pays, c'est une des plus grosses entreprises françaises. Et je vois mes collègues d'autres grandes entreprises françaises, ils sont justement sur un modèle par rapport à l'IA qui est mixte. C'est-à-dire que oui, évidemment, Microsoft va mettre de l'IA dans ses outils bureautiques et que tout le monde utilise plus ou moins Office, Outlook, voilà, etc. Mais pour les modèles d'IA internes, parce qu'on développe tous nos propres modèles, en particulier de LLM, donc de Large Language Model interne, pour être sur nos propres données dans nos data centers de façon souveraine, là, on utilise souvent des modèles français. Mistral, par exemple, aujourd'hui, est mis en application dans beaucoup de grandes entreprises parce qu'elles développent leur propre LLM. Donc, il ne faut pas...
Ça,
à mon avis,
ce n'est
pas l'un ou l'autre.
C'est, vrai.
C'est vraiment les deux. Et on essaye d'avoir à la fois cette IA effectivement un peu tout venant, j'allais dire, qui est dans les grands outils informatiques et bureautiques, et puis ces IA très spécialisées, très pointues, souvent secrètes, qui travaillent sur des données confidentielles, et là on développe avec des modèles, en l'occurrence français pour EDF.
Absolument.
Je ne sais pas si vous avez suivi aussi, mais les propos d'Emmanuel Macron mettaient en avant le fait de créer des clusters IA un peu partout en France, dans les grandes villes de France, pour essayer de détecter les talents de demain. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Je crois qu'il y a pas mal d'argent qui est mis sur la table là-dessus aussi.
Oui, et les
clusters. Des pôles d'excellence, il y a un peu partout.
Et les clusters, ça marche plutôt bien. Hein. Les quelques exemples, en tout cas, de clusters qui ont été développés sur des sujets très high-tech et deep-tech en France ont plutôt bien marché. Pour des raisons évidemment de concentration de talent, d'identification de talent. Aussi pour anecdotiquement, une question de localisation géographique. Moi, beaucoup de fondateurs de start-up ou d'experts technologiques dans des technologies vraiment de pointe, qui rentrent d'ailleurs souvent des États-Unis ou d'autres pays, me disent je suis rentré en France pour la qualité de vie, parce que pour mes enfants c'est mieux, etc. Et parce que j'ai envie de vivre, pas à Paris.
Non.
J'ai envie de vivre à Aix-en-Provence, genre à Bordeaux, à que sais-je.
En Normandie.
Et donc ça, c'est effectivement aussi très attractif dans les clusters.
Jérôme, attention, s'il te plaît.
Pardon.
On va pas trop loin.
On a plein d'auditeurs en
Anglais. Donc il y a eu pas mal d'annonces aussi. C'est vraiment la volonté de charmer même les investisseurs américains. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait faciliter le foncier, la réglementation, pour que les boîtes même américaines puissent venir s'installer ici. Et on évoque la puissance de calcul. Il espère que demain, on pourrait avoir 20% de la capacité de calcul, en tout cas d'usines de puces, qui pourraient être installées en France et en Europe.
Ça, c'est ça aussi,
c'est des enjeux importants. Hein.
Oui, et là, il y a quand même du chemin à parcourir, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pareil, il y a un potentiel énorme. Moi, il y a aussi, dans un autre domaine, une petite phrase d'Emmanuel Macron qui m'a marqué, c'est quand il dit qu'il veut favoriser l'acculturation des citoyens. Et pour ça, il va même donner 10 millions d'euros au Conseil national du numérique pour organiser des débats, discussions, etc. Et c'est intéressant parce que, effectivement, il faut que le plus grand nombre s'approprie l'intelligence artificielle, il soit favorable, qu'on ne crée pas une nouvelle fracture numérique.
Que les gens comprennent ce que c'est, parce que nous, évidemment, dans notre petit carré, etc., tech, on sait, mais je suis pas persuadé que tout le monde sache de quoi on parle. Hein.
Un, savoir de quoi on parle. Deux, y trouver un intérêt et y aller. Et trois, et là ce sera sans doute plus difficile, faire face au choc en retour qui se prépare derrière. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y avait encore une étude de je ne sais pas quel organisme qui dit que, attention, l'emploi, ça va être un tsunami, quoi. C'est l'explosion ou l'implosion, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer, dans quel sens, etc. Et là, c'est pareil, il va falloir que les entreprises se préparent à ça, arrivent à accompagner, je ne sais pas comment, avec la formation et autres, mais ça va être énorme, ça aussi.
Julien, j'imagine que même chez EDF, vous avez des plans pour... on va dire sensibiliser tous vos employés à l'IA, parce que bon, voilà, vous êtes 80 000, il y a du boulot hein, quand même.
Bien sûr, et si je prends l'exemple par exemple du déploiement d'outils de copilote de type IA qui vient aider dans le travail quotidien, sauf que hier par exemple on avait un comité social d'entreprise où on a travaillé avec les partenaires sociaux justement pour comment on va les implémenter, qu'est-ce que ça va changer dans le monde du travail, comment on peut effectivement mitiger des risques, parce qu'il y a des risques aussi liés à l'IA. On fait beaucoup de formation pour les salariés, l'idée c'est qu'en 2024 on ait formé l'intégralité des salariés à minima à comprendre ce qu'est l'IA. Il y a toujours un réflexe, en tout cas si le passé peut informer le présent et l'avenir. Il y a un réflexe français en général en opposition aux technologies. On l'a vu sur toutes les introductions technologiques. Et en même temps, le jour où on arrive à dépasser ça, il y a, une adoption vraiment claque immédiate, comme un feu, vraiment immédiat. Donc on peut imaginer que l'IA, ça sera pareil. Pour l'instant, ouais. Tout le monde dit « Oh là là, c'est dangereux ce truc, je ne sais pas quoi. » Et le jour où tout le monde l'aura accepté, ça ira très très vite. Moi, je suis assez optimiste.
Oui, et puis tout ça va... Il y a aussi un côté générationnel et autre. Il y avait un chercheur qui m'a envoyé, un enseignant d'université qui m'a envoyé il y a quelques jours un sondage qui est réalisé auprès des étudiants, où il a découvert que, mais je crois que c'est 92% des étudiants utilisent l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Donc tu vois, c'est voilà, eux ils ont compris, hein. Là, ils ont bien raison.
Sur ce coup-là, les étudiants sont très agiles.
Oui.
Sur ce qui est ChatGPT.
Mais rappelle-toi au début, comme on a noirci le tableau, où Sciences Po avait interdit l'IA pendant un moment, etc. Tout le monde était en PLS.
Mais encore une fois, c'est comme toujours, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts d'Internet. Alors ça fait vieux.
Ouais. N'allez pas sur Google.
Vieux Muppet Show.
N'allez pas sur Wikipédia.
Non, mais voilà, c'est ça. Et puis finalement, après, il y a eu une autorégulation. Finalement, et ChatGPT, c'est pareil.
Et puis les professeurs ont appris à utiliser ça dans leurs cours. À l'époque, on disait surtout pas Wikipédia. Maintenant, ils disent utilisez Wikipédia et servez-vous de la vérification des sources pour justement vous comprendre que Internet ne dit pas toujours la vérité. Et on voit bien que les enseignants, je le vois anecdotiquement pour mon fils dans son lycée, les enseignants intelligents, ils font quoi ? Ils leur disent utilisez l'IA si vous voulez, mais par contre, montrez-moi comment vous l'utilisez. Ne faites pas un copier-coller parce que je vais tout de suite voir que vous ne parlez pas comme
vous
parlez
d'habitude. Si vous ajoutez votre personnalité, votre intelligence, votre bon sens, ça fera la différence.
Et accessoirement, les IA génératives en maths, par exemple, sont assez nulles, hein, parce qu'elles font des erreurs tout le temps.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci, François.
Merci, Julien. Julien Villeray, avec tout un bridge d'EDF. Hein.
Alors oui, vraiment, présent, si vous venez à Vivatech, allez voir l'Impact Bridge. C'est 1500 m² dédié à la technologie à impact, c'est-à-dire ce qui permet d'améliorer l'écologie, tout ce qui est bas carbone, etc. Et c'est vraiment avec des startups génial, beaucoup d'IA aussi, évidemment. Donc c'est sur le bridge, la passerelle entre Hall 1 et Hall 2, allez les voir, c'est vraiment chouette.
Voilà, on parle beaucoup de cleantech et Jérôme, bien évidemment, on t'écoute et on te regarde sur Monde Numérique, voilà, avec un spécial Vivatech pour les jours qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vous restez avec nous, on va revenir sur la stratégie IA du gouvernement avec, dans un instant, Marina Ferrari qui sera avec nous sur le plateau, qui est la secrétaire d'État chargée du numérique. Tech & Co, la quotidienne, on revient juste après l'info éco, à tout de suite.
Jusqu'au 26 juin, pendant les journées MyAudi, profitez des séries limitées Audi Black Edition avec notamment le modèle A1 Sportback à partir de 410€ par mois avec apport et ses équipements d'exception comme le pack esthétique noir plus, la caméra de recul, les jantes et le volant Audi Sport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur audi.fr.
Offre en LLD sur 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 800€ réservé aux particuliers dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. MyAudi signifie mon Audi. Pensez à covoiturer.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Merci d'être là comme chaque soir. Vous le savez, 20h, 21h30, votre rendez-vous dédié à la tech. Depuis Vivatech, forcément, vous le savez, on est obligé d'être là. Hein, et ce sera le cas tout au long de cette semaine. Notre invité maintenant, c'est Marina Ferrari qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour François, merci pour votre invitation.
Secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari, c'est votre premier Vivatech, vous voilà dans le bain de la technologie.
Alors, dans le bain de la technologie, j'y suis déjà depuis quelques années.
Enfin, dans ce salon, bien
mais
sûr, parce que vous y êtes depuis.
Mais c'est vrai que c'est mon premier Vivatech. J'ai travaillé 10 ans dans la tech et figurez-vous, j'étais punie au bureau pendant que mes boss venaient sur Vivatech. Voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment une magnifique vitrine aujourd'hui de la technologie française, européenne et mondiale. Et je tiens encore à saluer l'organisation de cette 8e édition. L'année dernière, on a battu des records d'affluence. On était devant le CES de Las Vegas. J'espère qu'il en sera de même cette année. Vraiment, maintenant, Vivatech fait partie de nos outils d'attractivité aussi en France. Pour montrer tout notre magnifique écosystème de start-up.
Voilà, c'est un rendez-vous chouchou de notre président Emmanuel Macron qui malheureusement ne peut pas être là cette année du fait de l'actualité de la Nouvelle-Calédonie. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera là, je crois.
Oui, tout à l'heure, nous accueillerons Bruno Le Maire qui fera une déambulation. C'est vrai que le président aurait souhaité être là, mais l'actualité en a voulu autrement. C'est un événement auquel il tient tout particulièrement, puisque vous savez que depuis 2017, la tech est au cœur de notre action politique en France, parce qu'aujourd'hui, on sait que grâce à la tech, on peut vraiment gagner en productivité. Et d'ailleurs, la tech fait aujourd'hui partie de la base aussi de la politique de réindustrialisation que nous mettons en œuvre dans le pays. Je pense notamment à la deep tech.
Voilà, et donc ce Vivatech est aussi un peu un starter
où plein d'annonces sont, on va dire, liées, et notamment ce qui a été annoncé hier par le président Emmanuel Macron concernant l'IA, les fonds d'investissement, on va y revenir bien évidemment, mais juste un mot aussi sur l'attractivité de la France en matière de tech. On le voit, beaucoup d'intervenants étrangers sont là, hein, et des stars de la tech aussi. C'est important qu'ils viennent durant ce salon.
Alors c'est extrêmement important, ça rythme en fait la saison de la tech en France, j'ai envie de dire, parce qu'on a terminé Choose France la semaine dernière avec de magnifiques annonces sur Choose France. Vous avez vu 15 milliards d'euros d'investissement pour l'année à venir, plus de 10 000 emplois potentiellement créés en France. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui le pari qu'on a fait à l'époque sur la Startup Nation, qui est en train de devenir la Deep Tech Nation, est payant. C'est très important, les investissements étrangers structurants, non seulement pour l'emploi mais aussi pour nos capacités aujourd'hui, pour notre hardware un peu, j'ai envie de dire. Vous savez que l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi nos capacités de calcul. Un des gros investissements qui a été annoncé, c'est celui de Microsoft sur un nouveau data center en France qui devrait contenir 25 000 GPU. Et vous l'avez vu, pour tous ceux qui sont férus aujourd'hui d'intelligence artificielle, la commission sur l'intelligence artificielle, dans son rapport, nous préconisait d'implanter 30 000 GPU supplémentaires par an en France. Donc en un investissement, on atteint quasiment l'objectif. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, il faut raisonner au niveau européen, il faut raisonner au niveau mondial, et que la France est un pays de plus en plus attractif, et ça c'est grâce à la politique que nous conduisons, et c'est heureux.
Alors Eric Schmidt, qui aime beaucoup la France, qui est l'ancien patron de Google, le dit et le répète, voilà, la France fait partie du top 5 des pays de l'IA, de par ses chercheurs, de par sa formation. C'est une fierté qu'il faut entretenir, d'où justement le discours d'hier d'Emmanuel Macron, c'est
oui,
ça ?
Oui, alors hier après-midi, le président de la République a souhaité réunir les talents français et également des amis internationaux de l'intelligence artificielle à l'Élysée, pour un moment très très fort sur lequel on a pu mener des réflexions, notamment autour aujourd'hui de la diffusion de l'intelligence artificielle et également de IA for Good, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a des craintes dans la société par rapport à l'intelligence artificielle. Donc dans ce moment fort, il a souhaité impulser un nouveau souffle à la stratégie nationale d'intelligence artificielle, une première phase 2018, en gros 2022-23, où on a mis en place les structures avec 4 pôles de recherche majeurs en IA en France, puisque vous l'avez dit, on a la chance d'avoir de merveilleux talents, et depuis des décennies, sur l'intelligence artificielle en France, et également des supercalculateurs, un Français, Jean Zay, et puis un second Européen, Jules Verne, qui sera donc développé en 2025. Mm-hmm. Donc on voit bien qu'on a mis en place les structures. Là, on rentre dans la deuxième phase de notre stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, et donc le président de la République a fait plusieurs annonces importantes. D'abord, 9 IA clusters qui vont se développer en France. J'en cite quelques-uns. Il y avait déjà les 4 historiques, mais donc Grenoble, Toulouse, Nice et Prairies à Paris.
Je vous arrête 2 secondes.
Oui.
Quel est l'intérêt de ces clusters ? C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des pôles d'excellence dédiés à l'IA un peu partout en France ?
Alors c'est essentiel, puisqu'aujourd'hui on a des pépites partout sur le territoire, mais on voit bien que pour faire grandir ces pépites, il faut aussi qu'on les mette en lien dans un écosystème dense qui allie à la fois la recherche, les start-up et les utilisateurs, les grands groupes, etc. Donc le fait de créer des pôles territoriaux est de nature à créer cette émulation pour que vraiment l'intelligence artificielle diffuse partout. Autre point important aujourd'hui, c'est la question du financement. Alors on a aujourd'hui des belles storytelling ou histoires françaises en bon français qui émergent, je pense à Mistral notamment, mais on voit bien qu'aujourd'hui on a un enjeu très fort sur le financement, puisque l'intelligence artificielle nécessite de gros moyens. Donc le président de la République a également tenu à mettre l'accent sur ce point en annonçant 2 choses. D'abord, un renforcement du financement sur l'intelligence artificielle, le doublement d'aujourd'hui ce qui est consacré au sujet dans le cadre du plan France 2030, et puis également la création d'un fonds qui sera abondé à hauteur de 25% par l'État. Donc un appel est lancé aujourd'hui, et tous ceux qui nous écoutent, venez nous rejoindre dans ce fonds pour investir sur les technologies les plus prometteuses en matière d'intelligence artificielle.
Est-ce que la cohésion européenne va marcher là ? Parce qu'on voit que ce n'est pas toujours le cas, hein, Marina Ferrari. Alors, sur l'IA, on n'est pas tous de concert, il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Est-ce que là, on va arriver à un consensus ? Emmanuel Macron évoquait comme premier partenaire l'Allemagne, peut-être ? C'est ça ?
Oui. Alors c'est extrêmement important. Moi je vais un peu pondérer votre propos, François, ne m'en veuillez pas.
Non, mais...
Moi je pense qu'en Europe, on a beaucoup avancé, notamment en matière de numérique ces dernières années. Et Le lead est pris, le chemin est pris, et je crois qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à travailler en européen. J'étais hier matin au Conseil européen sur justement le Conseil formel télécom, mais on a parlé beaucoup de numérique et d'intelligence artificielle, puisque nous avons hier adopté formellement en Conseil l'EIA Act, donc le règlement sur l'intelligence artificielle. Mmh. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit est bien à la collaboration entre Européens. On voit que si on veut peser par rapport aux géants du numérique et aux autres marchés, le marché européen, 450 millions d'individus, nous donne cette possibilité et cette puissance. Et donc, le financement doit aussi être européen. Donc, moi, je suis plutôt très positive sur le fait qu'on va réussir en européen à construire une véritable force en matière d'intelligence artificielle, mais pas que. Il y a le quantique, il y a d'autres technologies aujourd'hui.
Marina Ferrari, est-ce qu'on pourra être au niveau des investissements américains? Sans doute pas. C'est des dizaines, des centaines de milliards qui sont mis sur la table.
Il faut être réaliste. On ne sera certainement pas au niveau des investissements américains, mais en européen, on pourra rivaliser. Vous l'avez dit aujourd'hui, la France est dans le top 5. Ça veut dire qu'en européen, on peut facilement être dans le top 3. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui se joue aujourd'hui. L'intelligence artificielle est une véritable révolution. Je la compare souvent à l'imprimerie ou à l'électrification. Et donc, il faut absolument qu'on se saisisse de cette technologie et qu'on la diffuse le plus rapidement possible.
Est-ce qu'on a un investissement cible de ce fonds?
Alors, on n'a pas d'investissement cible aujourd'hui de ce fonds. Par contre, je vous ai donné les chiffres. On veut doubler aujourd'hui du côté public, mais on voit bien que du côté privé, c'est des masses extrêmement importantes qui se lèvent aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a lancé des initiatives. Je tiens à saluer le travail de Philippe Tibi notamment, Tibi 1 et Tibi 2, qui sont ces initiatives de financement aussi, pour aider justement à scaler et à upgrader nos financements dans les phases les plus tardives, c'est-à-dire l'early stage.
Parce que où on va trouver l'argent? On sait qu'on est dans une situation un peu compliquée. Alors, l'amorçage, je crois, se fera par l'argent de l'État. Mais après, il faut faire quoi? Il faut faire appel aux entreprises. Quelles sont les pistes, en fait?
Alors, en fait, on travaille à tous les niveaux. L'argent de l'État ne va pas que dans l'early stage et pas que dans l'amorçage. Il y a aussi des fonds privés qui travaillent sur l'amorçage. Oui. D'ailleurs, l'initiative Tibi dont je vous parlais, nous l'avons aussi ouverte à l'amorçage. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il faut planter beaucoup de petites graines pour avoir vraiment des arbres qui poussent, si vous me permettez cette image. Ouais. On travaille vraiment, on a par exemple permis de libérer aujourd'hui l'épargne des Français, puisque vous avez vu qu'on a mis en place un IR JEI, donc qui permet aujourd'hui à tout un chacun de pouvoir investir et de bénéficier de réductions d'impôts quand vous investissez dans des jeunes entreprises innovantes. Donc on voit bien qu'on mobilise vraiment tout le scope, ça va de l'individu jusqu'à la société qui veut investir, jusqu'au family office, jusqu'à plus haut des grands investisseurs français ou européens qui voudraient investir, et bien sûr les fonds publics qui viennent en soutien.
L'autre, on va dire, chapitre du discours d'Emmanuel Macron, c'était aussi d'apporter encore plus d'attractivité. Alors, vous parliez de Choose France, mais le fait aussi de peut-être faciliter le foncier, faciliter aussi les réglementations pour que des entreprises étrangères puissent s'installer. Vous parliez tout à l'heure de cette puissance de GPU qui va arriver avec Microsoft, mais c'est que le début, il en faudrait beaucoup plus. En tout cas, le chiffre qu'a cité Emmanuel Macron, je crois que c'est 20% des puces qui devraient être en Europe.
C'est l'objectif que le président de la République nous a assigné hier.
La production de puces.
Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir monter à 20%. Il y a du chemin, mais ça peut aller très, très vite s'il y a une mobilisation générale qui s'opère. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est grâce à cette mobilisation collective, vraiment, qu'on va arriver à cet objectif qui est important.
Dernière petite question, Marina Ferrari, concernant la pédagogie au sujet de l'IA. Emmanuel Macron en a parlé, un investissement, de l'argent va être mis sur la table pour justement répandre le savoir de l'IA et expliquer aux gens ce que c'est. Parce qu'évidemment, nous, c'est ce qu'on dit tous les soirs, nous on sait ce que c'est. Mais est-ce que tous les Français sont au courant de la révolution qui est en train de se tramer?
Alors, je vous confirme que non seulement tous les Français n'ont pas conscience de la révolution qui est en train de se passer, mais parfois aussi, ils peuvent avoir peur de ce qui est en train de se passer. Oui. Ils peuvent craindre pour leur emploi. Donc, je tiens à les rassurer. Comme dans toute révolution industrielle ou numérique, il y a des emplois qui vont muter. Il y a peut-être certains emplois qui vont être amenés à disparaître. Mais les gains potentiels de création d'emplois sont bien supérieurs. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne cette mutation et qu'on rassure aussi nos concitoyens. C'est pour ça que dans la stratégie nationale d'intelligence artificielle que nous développons, il y a aussi tout un item sur l'IA de confiance. Et c'est pour ça que la France s'engage beaucoup, notamment sur ce qu'on appelle l'open source, pour qu'aujourd'hui tous ces modèles puissent se développer et se diffuser. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est celui de la formation et de l'acclimatation. J'appelle ça l'acclimatation à l'intelligence artificielle, qui va toucher tout le monde. Moi, je crois que l'intelligence artificielle en matière de services publics, par exemple, va nous permettre d'être beaucoup plus inclusif en matière de numérique. Demain, quelqu'un qui aujourd'hui ne maîtrise pas du tout l'outil numérique va pouvoir avoir une IA conversationnelle pour lui répondre. Ça va améliorer notre capacité de réponse à nos concitoyens. Donc, la perception du service public sera meilleure. Ça va les inclure davantage dans la relation au service public ou aux démarches qu'ils ont à faire. Et aussi, pour nos propres agents, ça va leur faciliter les tâches pour se concentrer davantage dans la relation humaine qu'ils pourront avoir avec nos concitoyens. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
C'est un travail monumental.
C'est un travail monumental.
En interne.
Absolument. C'est pour ça que tout le monde se saisit de cette problématique, non seulement de formation professionnelle, mais également aujourd'hui de diffusion des connaissances de l'intelligence artificielle. Le président de la République, par exemple, vis-à-vis du grand public, a annoncé un plan de 10 millions d'euros qui sera porté par le CNUM pour aujourd'hui diffuser cette culture de l'intelligence artificielle avec des cafés IA et des débats démocratiques autour de l'IA qui seront organisés partout sur le territoire. C'est extrêmement important. Et puis aussi un volet formation pour les plus jeunes, puisque aujourd'hui on a des talents en France, mais il nous faut encore plus de talents et plus de femmes, je tiens à le dire. Mesdames et mesdemoiselles, venez dans la tech, il y a des formidables expériences et des formidables opportunités pour vous. Et donc, tous les collégiens aujourd'hui devront avoir une formation sur l'intelligence artificielle pour en comprendre les usages, comment on la conçoit et les biais éventuels afin d'être mieux protégés. C'est extrêmement important.
Voilà, toutes ces paroles plutôt optimistes, ça fait...
Très optimiste.
Ça fait du bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marina Ferrari, rappelons que vous êtes secrétaire d'État chargée du numérique. Bonne déambulation, comme on dit.
Et venez à Vivatech, il y a plein de belles choses à voir.
Voilà, jusqu'à samedi, avec samedi, journée ouverte au grand public.
Donc journée ça, ouverte cool. au grand public samedi, et je serai là également, tout mon cabinet est là pendant 4 jours, donc venez nous rencontrer.
Merci beaucoup, et on enchaîne tout de suite avec une autre boîte, on va dire là, d'envergure européenne, c'est Airbus, la décarbonation de l'avion. On en parle dans un instant avec mon invité, merci d'être là, c'est Tech & Co sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech, jour 1. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde. Déjà, on sent de bonnes vibes, hein, de bonnes ondes, comme on dit. On enchaîne avec une boîte qui représente la technologie, c'est Airbus, bien sûr. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Tech & Co, ici à Vivatech, Karim Mokadem. Bonjour Karim, merci d'être là.
Bonjour François.
Responsable de recherche et technologie de l'avion du futur chez Airbus. Vous avez déjà un titre qui fait rêver. Important pour Airbus d'être ici à Vivatech?
Bah, écoutez François, oui, important, parce que bon, moi c'est la première fois que je viens chez Vivatech et je vois l'énergie qui est autour de nous, hein, c'est incroyable. La technologie, c'est de plus en plus important, vous l'avez dit. Le monde aéronautique n'échappera pas aux évolutions technologiques qui sont en face de nous. Et donc voilà, donc on est au milieu de tout ça et on est très fiers d'y être.
Avec des enjeux capitaux, j'ai envie de dire, pour évidemment l'industrie aéronautique. En premier, la décarbonation, on est d'accord? C'est votre focus numéro un aujourd'hui?
Alors, en premier, la décarbonisation, parce que c'est un élément extrêmement important. On dit toujours qu'on est responsable de la moitié des émissions du secteur aéronautique, nous, Airbus. Donc, c'est un devoir pour nous de se challenger et d'avancer sur ce sujet. Ça a été dit depuis un certain temps par Guillaume Faury, c'est la priorité numéro un. Avec aussi toute la transformation que cette industrie a en face d'elle depuis le premier vol commercial dans les années 50. Ah oui. On est à peu près certain que l'avion du futur n'aura rien à voir avec l'avion d'aujourd'hui. Et ce challenge, il faut qu'on y soit. Et c'est ça qui est important.
On va en parler, hein, c'est l'avion à hydrogène, bien évidemment. En tout cas, l'un des projets. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Parce que, évidemment, l'aviation est une industrie très complexe avec beaucoup de réglementations, ce qui est normal. D'ailleurs, il faut des dizaines d'années, hein, pour changer de paradigme, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous annoncez ici à Vivatech? J'ai cru comprendre que vous annonciez un camion équipé d'un cockpit en collaboration avec un grand constructeur de voitures français.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire, François. Donc, effectivement, on annonce aujourd'hui... C'est d'ailleurs assez inhabituel, hein, de tester des technologies aéronautiques dans un camion. Et on l'a fait.
Un camion Airbus, c'est vrai que ça dit comme ça, c'est un peu
C'est assez
étonnant.
Bizarre. Et ce camion, il est représentatif de ce qu'on pourrait faire dans des opérations au sol, de manière plus autonome, plus automatisée. Comment aider le pilote dans ses phases de déplacement d'un avion d'un point A à un point B sur le sol. Donc il est représentatif de ça. On l'a fait sur un camion parce que c'est plus simple, mais vous irez voir, François, le camion à l'intérieur, c'est comme si vous étiez en train de piloter un A350.
Mais il sert à quoi ce camion ?
Alors il va servir à valider un certain nombre de technologies. Je dis souvent, c'est le camion le plus connecté de la planète. Il est même plus connecté que mes enfants aujourd'hui, très honnêtement.
Vous êtes sûr ?
Je ne sais pas, hein, j'ai un doute. En disant ça, j'ai un doute. C'est le camion le plus connecté. Donc, il y a du GPS, il y a de la communication satellite, il y a des lidars, il y a des radars. Donc, ça doit permettre de déplacer un avion de manière plus autonome, d'aider le pilote au sol.
Donc, ah, d'accord. Ça... Donc, en fait, le camion... télécommande l'avion qui va être sur le tarmac.
Le camion est représentatif d'un avion qui se déplacerait sur le tarmac. Et d'ailleurs, ce camion va se déplacer dans différents aéroports pour tester ces différentes technologies. Donc ça, c'est la partie technologie.
Oui.
Et il y a une autre partie qui est la partie carte. Si vous prenez un logiciel de navigation bien connu, François, que vous avez sur votre téléphone ou dans votre voiture, vous avez une carte. Cette carte, elle est partagée avec plein de gens.
Celui qui nous dit où il y a les embouteillages.
C'est ça, c'est celui qui dit là, il ne faut pas dépasser telle vitesse.
D'accord. Hein,
et ouais. Qui vous demande si c'est toujours le cas.
C'est ça.
Bon, eh ben, ce logiciel où vous partagez une carte avec plein de gens, c'est un peu le futur de l'aviation. On va avoir des cartes collaboratives partagées avec non seulement les compagnies aériennes, mais aussi les tours de contrôle, dans lesquelles on va voir cet avion se déplacer et s'il y a un obstacle ou une information, il va devoir la partager. Ce monde-là, plus collaboratif, où l'humain va aussi interagir plus activement avec la machine, c'est le monde de l'aviation de demain. Donc, au-delà de la décarbonisation, il va falloir aussi qu'on pense à une aviation qui soit complètement différente, collaborative, plus sécuritaire aussi, puisqu'on va pouvoir aussi aider le pilote dans certaines opérations où il a une charge mentale plus importante. Et c'est ça l'avenir, et on n'y échappera pas.
Oui, alors on évoque Waze, hein, on ne va pas se voiler la face, mais donc on peut imaginer un Waze sur le sol, mais aussi dans les airs, ou pas ? Demain. Alors,
tout est imaginable. Notre credo.
Enfin, je reprends l'actu récente là de ces énormes secousses qu'il y a eu sur un Boeing, je crois, qui a été dramatique, qui a eu un mort, etc. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'un avion qui subit par exemple de grosses secousses puisse alerter automatiquement tous les avions qui sont tout autour en disant bah, attention, on est dans une zone assez dangereuse. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, hein. Mais ce partage d'informations, ça a du sens ?
Non, mais vous ne dites pas du tout n'importe quoi, François. Ça peut être une réalité. Et au sein d'Airbus, notre stratégie, c'est de commencer par étapes. Donc la première étape, c'est d'automatiser le plus d'opérations qui sont au sol, parce qu'elles sont, entre guillemets, plus simples à réaliser et à apprendre de ça. Mais évidemment que cette notion d'autonomie, elle va se généraliser de plus en plus. C'est ce que vous venez d'indiquer, évidemment. C'est une situation qui pourrait très bien devenir une réalité dans le futur.
Parlez-nous de votre partenariat avec Renault sur la propulsion électrique hybride.
Alors, donc là, on passe plutôt sur la partie décarbonisation. Donc, pour décarboner l'aviation, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est soit on utilise des carburants synthétiques. Donc les carburants synthétiques,
les carburants verts.
Voilà, le premier d'entre eux, il s'appelle l'hydrogène d'ailleurs, hein, oui. Et puis il y en a d'autres.
Bien sûr.
La deuxième solution, c'est d'apporter un peu plus d'électricité dans un avion, et ça au travers de batteries ou au travers de piles. Et donc ça, c'est une deuxième option. Et donc dans ce cadre-là, on a lié un partenariat avec Renault pour travailler sur tout ce qui est batterie et les prochaines générations de batteries. Et puis en fait, très humblement, de se dire, le monde de l'automobile a vécu une révolution extrêmement importante ces 15 dernières années en allant vers plus d'électrification et plus d'hybridation. Chez Airbus, on n'a aucune raison de réinventer la roue. Il faut qu'on apprenne au maximum de ces collaborations et ça, c'est vraiment un leitmotiv assez important. Donc le partenariat avec Renault, il est assez représentatif de ça et il peut s'étendre de manière plus large encore.
Et c'est super, le fait de pouvoir bosser avec un partenaire prestigieux français comme ça.
Moi, personnellement, j'en suis très fier. J'ai passé 15 ans de ma vie dans l'automobile. Donc, réconcilier l'aéronautique et l'automobile, j'en suis personnellement extrêmement fier.
Dernier step, peut-être le plus complexe, celui qu'on voit vraiment à un horizon assez lointain, c'est la révolution de l'hydrogène pour des avions. Où est-ce qu'on en est concrètement, Karim, aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a toujours cette ambition d'avoir en service un avion hydrogène à horizon 2035. On est en train de travailler activement sur le sujet. Il y a toujours deux options qui sont exploitées. La première est de faire brûler de l'hydrogène directement. La deuxième est d'utiliser de l'hydrogène avec des piles pour produire de l'électricité. Donc aujourd'hui, on est dans des phases assez avancées d'essai au sol. Donc voilà, ça avance. C'est quand même une énorme ambition. Donc je crois qu'il faut vraiment continuer à le dire. Et voilà, c'est une grande fierté pour Airbus de regarder la ligne d'horizon et de se dire, ben, les avions du futur, ils voleront à l'hydrogène.
Mais c'est quoi la première étape? Vous dites en 2035. Qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement en 2035?
Alors, en 2035, on a différentes options. L'une d'entre elles étant de faire un avion régional qui puisse transporter 100 passagers.
Ah, quand même?
Oui, quand même.
D'accord.
C'est un avion régional sur environ sur environ 2000 km. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille le plus aujourd'hui.
D'accord.
Et voilà, ça nous semble être une première étape qui est assez importante et qui va permettre d'aller plus loin en termes de gabarit d'avion quand les technologies permettront de le faire. Donc voilà, encore une fois, c'est une démarche assez rationnelle. On y va étape après étape. Rien n'est acquis pour l'instant, hein. Donc voilà, on continue d'avancer et on est très fiers d'avancer sur ce sujet. Mais c'est pas pour autant que c'est la seule manière de décarboner l'aviation. On exploite aussi tous les autres sujets qui sont liés à plus d'électrification et surtout à l'utilisation de carburants synthétiques qui sont quand même les options aujourd'hui les plus importantes.
Le problème, c'est que le carburant synthétique coûte beaucoup plus cher que le carburant traditionnel aujourd'hui.
Exactement. C'est pour ça que miser uniquement sur les carburants synthétiques, ce n'est pas la solution. Il faut en parallèle améliorer la performance des avions pour consommer beaucoup moins. D'où notre objectif de réduire la consommation des avions de 25%.
Voilà, vous êtes présent ici à VivaTech, donc n'hésitez pas à rêver pendant quelques minutes en vous baladant sur le stand d'Airbus. Merci beaucoup Karim Okadem.
Merci François.
Vous êtes responsable recherche et technologie de l'avion du futur chez Airbus. Il va falloir quand même qu'on aille chez vous et qu'on arrive à faire une émission intégrale depuis Toulouse et découvrir un peu vos entrailles, voir comment tout ça fonctionne.
Vous êtes le bienvenu et je vous promets qu'on vous montrera tout.
Ah ben ça va être top, on va organiser ça. Vous restez avec nous, bientôt 21h, on va attaquer notre deuxième partie de ce Tech & Co. Vous savez, on est là chaque soir entre 21h et 21h30 avec au sommaire pour notre deuxième partie, eh bien justement les exosquelettes avec une boîte que je reçois sur le plateau dans quelques instants. C'est Bionic System qui invente l'humain augmenté et vous allez voir, c'est passionnant, hein. Et puis on parlera de la défense aussi. On n'est pas loin du pavillon numérique de l'État et on va faire un point sur la défense qui est présente ici, peut-être pour recruter des nouveaux talents. On en parlera avec mon invité. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. Reviens dans un instant, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Merci de passer cette soirée en notre compagnie. Nous sommes à VivaTech. Voilà, c'est le grand jour, hein. Premier jour de ce grand salon dédié à l'innovation ici à Paris, Porte de Versailles. Évidemment, BFM Business y est, et évidemment, Tech & Co se doit d'y être avec évidemment énormément d'émissions, hein. Vous retrouverez De quoi je mail, Tech & Co Business avec Frédéric Simotel, la rédaction de Tech & Co présente, et notre petite déambulation dans ce salon pour vous faire découvrir quelques innovations sympas. Et je vous présente tout de suite Louis Darfeuille qui est avec nous. Bonsoir Louis.
Bonjour François.
Vous êtes responsable France chez German Bionic Systems. Boîte qu'on ne connaît pas énormément, mais c'est pour ça que vous êtes là avec nous, parce que c'est très intéressant ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est exosquelette pour faciliter les tâches en fait, des opérateurs qui portent vos produits. Est-ce que vous pouvez, avant d'entrer dans le détail de ce que vous faites, et peut-être même nous faire une petite démo ici sur le plateau, vous présenter qui est Bionic, German Bionic System?
Tout à fait. Donc German Bionic, donc société allemande, hein, comme son nom l'indique. Oui. Donc siège, R&D, production, tout est en Allemagne. Donc c'est une société qui développe et commercialise tout un écosystème, dont un exosquelette actif ou dit robotisé, qui est un outil qui va permettre de protéger le dos des personnes qui font de la manipulation de charges lourdes en entreprise. Et on a des moteurs, donc on a un exosquelette qui est robotisé, qui va permettre d'aider les personnes à se baisser, à se relever, et on va compenser le poids de ce que les personnes doivent manipuler.
Alors, petite démo tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Donc, société allemande, est-ce que vous êtes une start-up aujourd'hui ou vous êtes une entreprise bien établie? Vous en êtes où, en fait, dans la croissance de German Bionic Systems?
Alors, on a passé, je dirais, l'état de start-up, parce que la société a été fondée en 2017.
Oui.
Et aujourd'hui, on est déjà sur notre sixième génération de notre exosquelette actif. Donc, on va dire que pendant cinq générations, on a développé des exosquelettes, dont des prototypes. Et maintenant, on est sur un dispositif qui est produit en série en usine de production en Allemagne et qui est commercialisé presque dans le monde entier.
Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vision européenne de ce que vous faites.
Tout à fait, c'est très important pour notre société d'être une société européenne, certes basée en Allemagne, mais on a beaucoup d'interactions avec des entreprises et des financements européens, d'où notre présence aussi sur le salon Vivatech.
Quels sont vos clients en fait? Qui fait appel à ce type de solution?
Alors, nos clients, ça va être tous les clients qui ont chez eux des process ou des personnes doivent faire de la manipulation de charges lourdes. Donc la plus grosse partie de nos clients, c'est des entrepôts, c'est des logisticiens, des personnes qui, toute la journée ou une partie de la journée, doivent charger, décharger des containers, des camions, qui doivent préparer des commandes, qui doivent, sur des convoyeurs en industrie, mettre des produits, retirer des produits, mais aussi, dans le médical, toutes les personnes qui vont devoir manipuler des patients. On connaît tous des personnes qui ont dû être manipulées, donc quand il faut mettre...
Des kinés, par exemple, alors
Des aides-soignants, surtout des personnes qui vont manipuler les patients, qui vont les aider à se mettre ou à sortir des fauteuils roulants, les aider dans leurs toilettes. Vraiment, dès qu'il y a des manipulations de charges ou de personnes, notre exosquelette va venir protéger et soulager.
Parce que bien évidemment, derrière tout ça, c'est les maux de dos qui est le mal du siècle.
Tout à fait. Donc nous, l'exosquelette va venir protéger le dos, quel que soit le mouvement réalisé de la personne. Donc on a vraiment un maintien, une protection. Et les moteurs vont vous donner une force supplémentaire ou plutôt une compensation pour que ce que vous avez l'habitude de faire soit plus facile et que ce soit plus léger.
Louis, je vous invite à venir ici sur le centre de ce plateau pour nous montrer. Alors, on a vu quelques vidéos, hein, si vous êtes avec nous à la télé, mais si vous êtes en radio, je vais vous expliquer. Donc, vous avez comme un harnais avec tout un matériel derrière vous, sur les côtés aussi au niveau de vos cuisses.
Oui.
C'est ça?
Tout à fait.
Donc, alors expliquez-nous ce que vous avez là.
Donc là, c'est l'exosquelette.
Quel est votre équipement?
Donc l'exosquelette, il est composé de trois éléments.
Oui.
On a la veste qui est ici, qui est propre à chaque utilisateur. La structure qui est commune ici au niveau de mon bassin, avec les moteurs qui sont justement ici de part et d'autre du bassin. Puis une prise au niveau des cuisses pour tout ce qui est fait de levier et aussi l'aide à la marche.
D'accord.
Voilà. Donc le dispositif, on a un écran sur le côté qui, comme sur un vélo électrique, je vais pouvoir choisir le pourcentage de puissance de soutien dont j'ai besoin pour me baisser et pour me relever.
Donc très facile d'accès en fait.
Ah oui, il y a deux clics, je ne sais pas si on peut voir à l'écran, mais on choisit...
Comme une petite télécommande en fait.
C'est ça, vraiment comme un vélo électrique.
C'est ça.
C'est le même principe.
Et alors, on va faire peut-être une petite démo, vous allez poser votre micro après, vous nous expliquerez, mais... Ça me permet de soulever quelle charge, en fait, votre système?
On va parler plutôt de compensation.
De compensation.
Notre exosquelette va permettre de compenser entre 30 à 80% du poids réel de ce qu'on manipule entre le sol et la poitrine. On va commencer sur des charges entre 6 et 10 kg et on va aller jusqu'à 40 kg. Donc, notre exosquelette va pouvoir compenser jusqu'à 32 kg de ce qu'on est en train de manipuler.
Donc, forcément, c'est un peu... C'est intéressant, l'analogie avec le vélo. Parce que le vélo, on pédale légèrement et on va vite. Là, on aura la sensation, évidemment, on va se baisser, mais on va pouvoir soulever des choses dont on ne s'en rendra pas compte du poids, finalement, c'est ça ?
On va toujours ressentir le poids, parce que comme vous voyez, je suis libre de mes mouvements, je vais sentir le poids dans mes bras, mais au niveau du dos et de mon ressenti physique...
Je vais avoir une assistance.
Je vais avoir une assistante
et motorisée.
Ça va me paraître plus léger, plus facile que d'habitude, et je vais moins m'essouffler, je vais être moins fatigué que d'habitude.
Et puis surtout, mon dos va moins souffrir.
Ah oui, mon dos, de toute façon, il va être maintenu droit, il va être protégé par l'exosquelette.
Louis, petite démo.
Allez,
sur BFM Business.
Parti.
On y va.
C'est parti.
Alors, vous posez votre micro et je vais essayer de commenter ce que vous faites. Donc là, vous choisissez la puissance, en fait. Je ne sais pas ce qu'on vous a mis, si c'est lourd ou pas, ce qu'il y a là-dedans. Je crois que c'est assez lourd quand même. Hein. On veut tester vraiment votre système. Donc là, vous positionnez. Et voilà. Et donc là, lorsque vous soulevez en fait ce système, vous ressentez... Qu'est-ce que vous ressentez en fait? Voilà, vous pouvez poser et reprendre votre micro.
En fait, là, j'ai fait exprès de mettre un peu de puissance pour qu'on puisse le voir à l'écran. L'exosquelette, dès que j'initie un mouvement, les moteurs vont prendre la relève pour m'aider à me redresser plus facilement. Donc tout ce que je devrais faire habituellement avec mon dos, là, l'exosquelette vient me tirer en arrière et vient aussi m'accompagner quand je descends.
D'accord.
Voilà.
Vous pouvez reprendre votre place. C'est passionnant tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ce que vous faites aujourd'hui?
Oui, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est la bonne
nouvelle. Donc c'est une vraie problématique. Et ça veut dire que vous avez misé sur le bon cheval, s'il y a de la concurrence.
Oui, la concurrence, elle est très importante. Ça nous permet de nous développer plus rapidement, de pénétrer le marché aussi plus rapidement. Parce que plus on est d'acteurs, plus on vient éduquer ce marché avec ce nouveau produit, ce nouveau process. Les clients ne connaissent pas, ne savent pas, n'ont pas les compétences pour intégrer ce genre de solution. Donc plus il y a d'acteurs, plus il y a de différences entre les exosquelettes, plus ça permet de démocratiser cette nouvelle technologie.
Est-ce que vous êtes obligé de concevoir des appareils à la demande de vos clients, ou est-ce que finalement vous êtes arrivé à standardiser tout ça?
Alors, on a un dispositif qui est complètement standard. On n'a que deux modèles. On a ce modèle-ci pour l'industrie logistique et le même, mais avec un matériau qui est compatible pour tout ce qui est désinfection dans le milieu médical.
D'accord.
Le gros avantage de notre système, c'est qu'il est fait pour aller, on va dire, à 99% de la population. Hommes, femmes, très okay. important.
Pas de problème de taille, minimum, des choses
non,
comme ça.
Non, parce qu'on peut régler la taille sur le dispositif. Okay. Donc, en fait, la structure est commune à tout le monde. Et ce qui est individuel pour des questions d'hygiène et de morphologie, c'est la veste que j'ai sur moi. Donc, chacun a sa veste. Et après, tout le monde
vient plugger le système.
C'est ça. On a un rail où on choisit la hauteur. D'accord. Sur l'exosquelette.
Ça coûte combien ?
En fonction des volumes d'achat, forcément, on va être entre 10 et 18 000 euros par exosquelette.
Beaucoup d'entreprises vous font confiance. Vous en avez vendu combien aujourd'hui ?
Alors, je ne saurais pas vous dire le nombre exact, mais on est de plus en plus sollicité parce que, comme je l'ai dit, le mal du siècle, c'est le mal de dos. Et quand on arrive avec notre produit, quand il faut aller dans des entreprises qui encore chargent des sacs, des containers ou autres, généralement, ça matche assez bien avec notre solution.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Louis. Passionnant, hein, tout ça. On voit que, petit à petit, on arrive à aider finalement les personnes manuelles en quelque sorte.
C'est
qui
ça.
Soulèvent des poids pour que justement on puisse prendre soin de leur dos et leur permettre de faire beaucoup plus de choses.
C'est ça, c'est l'interface entre l'humain et la machine. Là c'est l'humain augmenté, donc c'est le mix entre le robot et l'homme.
Merci beaucoup Louis Darfeuille, donc responsable France chez German Bionic System. Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. On poursuit avec notre nouvel invité tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Autre entité présente ici sur le salon Vivatech, eh bien, c'est le ministère de la Défense. Et on va en parler tout de suite parce que l'innovation est fortement imbriquée dans la Défense. Et on en parle avec Patrick Aufort qui est avec nous. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'agence de l'innovation de Défense puisque vous faites partie, je disais, du ministère des Armées. Et vous avez un stand ici à la fois pour montrer l'état de l'art de la technologie dans ce que vous faites. Alors, vous n'allez pas tout nous montrer, bien évidemment, mais vous êtes là aussi pour plein de raisons, pour séduire peut-être les nouvelles générations, susciter des vocations, etc. Pourquoi êtes-vous là, présent ici à Vivatech ?
Eh bien, être présent à Vivatech pour le ministère des Armées, donc vous l'avez dit, l'Agence de l'innovation de défense est une entité rattachée au délégué général pour l'armement et qui a pour vocation de fédérer toutes les activités d'innovation au profit de nos forces, au profit de la supériorité opérationnelle des forces. Et être présent à Vivatech, en fait, ça a un double intérêt pour nous. Le premier, dans nos missions, il y a être capable de détecter de l'innovation qui aurait été suscitée en dehors du champ de défense et de la ramener vers des usages défense. Et on a ici un foisonnement d'innovation et donc j'ai bien sûr une équipe qui tourne dans les couloirs du salon à la fin de détecter des usages potentiels, des technologies potentielles. Et puis il y a la nécessité de faire savoir ce que l'on fait, de faire savoir ce que l'on cherche et comment on pourrait travailler ensemble. Et donc c'est ça aussi qu'on montre sur notre stand avec une illustration de projet. En effet, on ne peut pas tout montrer, on a fait des choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font également chez nous, mais on essaie d'illustrer différents types de projets, différents modes d'innovation. Et je dirais qu'il y a un dernier intérêt à être ici, c'est aussi le sujet du recrutement, le sujet des compétences, qui est un sujet majeur pour tout le monde, et y compris pour le ministère des Armées, avec des compétences technologiques fortes qui sont nécessaires notamment dans les domaines du numérique par exemple.
On en parlera tout à l'heure bien sûr, puisque rappelons que Vivatech est ouvert au grand public samedi. Et vous avez déjà un historique, hein, puisque vous étiez là notamment l'année dernière, et ça a été un succès, je crois, mais on va en reparler. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'IA est partout ici sur ce salon. Est-ce qu'elle est aussi à la direction de l'Agence de l'innovation de la Défense ?
Alors, l'IA a été prise en compte très très tôt, après la création de l'Agence d'innovation de défense. L'Agence d'innovation de défense, elle a été créée il y a 6 ans, en 2018, avec cette conviction qu'il fallait apporter une impulsion forte sur l'innovation pour conserver la supériorité opérationnelle de nos forces. Et dès les mois qui ont suivi, on a créé au sein de l'Agence de l'innovation de défense une cellule qui s'appelait la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense, de manière à animer l'écosystème des acteurs de l'intelligence artificielle et être capable de monter en maturité technologique les technos dont on a besoin, les projets qui pourraient faire la différence pour nos utilisateurs. Et très récemment, l'intelligence artificielle au profit des sujets de défense a encore pris plus d'ampleur avec l'annonce par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il y a quelques semaines, de la création au sein du ministère d'une agence dédiée à l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD, Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, et dont le directeur d'ailleurs sera présent sur Vivatech ce vendredi après-midi. Et bien sûr, L'intelligence artificielle, c'est une technologie au service des usages, au service des métiers. Donc on va travailler en parfaite collaboration entre cette nouvelle agence, l'AMIAD, et l'Agence Innovation de Défense, de manière à diffuser ces briques techno d'intelligence artificielle au profit de différents cas d'usage, au profit de différents métiers. Et la plus-value supplémentaire qu'aura cette nouvelle agence sera aussi de réaliser en propre des développements de manière souveraine pour les usages du ministère. Donc une capacité interne de calcul et de développement en plus de tous les projets que nous sommes amenés à faire avec différents acteurs, aussi bien du monde académique qu'industriel.
Patrick Aufort, qu'est-ce que vous présentez ici comme innovation un peu waouh sur votre stand à quelques dizaines de mètres d'ici?
Alors on a fait un choix d'une dizaine de projets qui vont essayer de montrer à la fois de la technologie, à la fois des domaines de technologie émergente et à la fois des modes d'action. Mmh. Je pense que le mieux, c'est de vous illustrer, de prendre des exemples. Le premier exemple, je vais parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Centurion. Et il me tient beaucoup à cœur parce qu'un des enjeux pour l'innovation, c'est que l'innovation ne reste pas un démonstrateur, ne reste pas un prototype, mais finisse dans les mains de nos utilisateurs. Et donc, le projet Centurion, c'est plus qu'un projet, c'est un programme, c'est un environnement. En fait, on a créé un écosystème où on a demandé aux intégrateurs, aux systémiers que sont Thales et Safran et qui s'occupent du futur du combattant, donc le fantassin de demain. On leur a demandé d'animer un écosystème de manière à expérimenter des solutions de manière rapide, des solutions qui viennent de PME, de start-up, de TPE. Et si ces expérimentations fonctionnent, de les intégrer. Et en fait, on crée cet écosystème d'expérimentation et ensuite d'intégration en animant et en créant la plateforme permettant de déposer les projets, de les sélectionner, de les expérimenter au plus vite. Et de cette manière, on casse cette vallée de la mort qui existait entre le prototype et le passage à l'échelle.
À quoi va ressembler ce combattant du futur? Tout à l'heure, je recevais le porte-parole de Bionic Systems qui fait des exosquelettes. Est-ce que c'est une piste que vous envisagez ça, le fait que le combattant de demain soit augmenté avec, on va dire, un exosquelette par exemple?
Complètement. Donc dans ce programme Centurion que je vous invite à venir voir sur le stand du ministère, vous aurez un bel hologramme qui va présenter les équipements qui accompagneraient ce combattant. Et donc ce combattant, il va être mieux protégé, il va être capable de naviguer, il va être connecté avec son environnement, avec des objets qui vont l'accompagner, des drones, des robots, mais également il va avoir la situation tactique de son environnement. Il va être protégé, je l'ai dit, mais de manière active, et puis il va être accompagné en réseau dans sa manœuvre avec les autres équipements.
Patrick, ce qui est intéressant, vous me le disiez tout à l'heure quand on préparait cette interview, c'est qu'il y a même de l'e-sport sur votre stand.
Alors tout à fait.
Et on se dit, mais quel rapport entre l'e-sport et la défense?
Eh bien, l'innovation de défense, c'est aussi une question de culture. En fait, pour faire de l'innovation, il faut des moyens, mais il faut créer aussi tout un environnement favorable à la génération de l'innovation. Ça veut dire travailler sur les modes d'acquisition, les contrats, travailler sur comment expérimenter. Et puis, il faut aussi aller explorer de nouveaux champs. Et en fait, déjà, la communauté militaire, elle ne vit pas en dehors du monde. Donc, elle a les mêmes enjeux, les mêmes souhaits. Et typiquement, le sujet de l'e-sport l'intéresse. Et puis, en fait, on est convaincu qu'il y a une forte zone de recouvrement entre le domaine de l'e-sport et notre propre domaine défense.
En fait, l'agilité, les réflexes.
Voilà. Quand vous regardez un champion d'e-sport, en fait, ses performances physiques, ses performances cognitives,
intellectuelles,
on est convaincu qu'elles sont très, très proches des compétences et des qualités qu'on va rechercher chez nos futurs utilisateurs de systèmes d'armes qui sont de plus en plus complexes. Et donc, on est convaincu qu'il y a des choses à aller regarder dans le domaine du sport, sur les technos, mais aussi sur les manières. Comment ils sélectionnent les champions, comment ils les entraînent. Ça, c'est des sujets qu'on regarde. Et c'est pour ça qu'on soutient un projet d'e-sport, un projet Hellenix qu'on a monté d'ailleurs depuis 2 ans, depuis 2021. Et d'ailleurs, je vous invite là aussi à venir nous voir sur le stand du ministère des Armées. Vous pourrez voir ce projet e-sport et vous pourrez même, je fais un peu de teasing, vous confronter à un influenceur, Dobby Elf, qui a amené un simulateur de F1 et qui est prêt à vous défier. Wow. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand pour ça aussi.
L'idée aussi d'être là, c'est de susciter des vocations, parce qu'on le disait, samedi c'est ouvert au grand public, vous recrutez, hein, ça c'est pas un secret. Peut-être que demain, les futurs talents vous auront découvert ici à Vivatech.
Alors on a coutume de dire, j'ai coutume de dire quand je présente l'agence de l'innovation de défense, qu'en fait les utilisateurs de nos systèmes de demain, ils sont aujourd'hui à l'école, ils sont dans les cours de récréation, au primaire, au collège, dans les lycées.
Bien sûr.
Et donc, en fait, en effet, il faut qu'on s'intéresse à eux. Mais l'enjeu du recrutement, l'enjeu des compétences, il est tout de suite. Et en effet, nous sommes aussi là, je l'ai dit précédemment, pour se faire connaître, faire connaître les domaines technologiques dans lesquels on travaille et les types d'emplois qu'il y a chez nous. Et en effet, notamment, les métiers du numérique sont un véritable enjeu pour nous. Je pense à la cyber, à la cyberprotection, la cyberdéfense, au métier de l'IA. Là aussi, on l'avait dit dans tous les projets qu'on va présenter, il y a un certain nombre de projets à base d'intelligence artificielle, de tout domaine, des projets qu'on développe en interne, par exemple, comme un projet qui s'appelle Les Oreilles d'Or. Et en fait, si vous avez vu ce film Le Chant du Loup, c'est un projet qui, à base d'intelligence artificielle, va aider nos acousticiens à reconnaître les signatures.
L'ouïe augmentée.
Voilà, l'intelligence artificielle au profit de l'acoustique augmentée. Nous présentons un projet qui s'appelle CreasMap, qui génère avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui génèrent automatiquement des cartographies en trois dimensions à partir d'images satellites. Vous récupérez des images satellites et vous générez directement les cartographies pour les usages de simulateurs. Et donc tout ça, le fait de le connaître, de le percevoir, va aider, je pense, ces jeunes qui sont actuellement étudiants et qui se font une idée de ce qu'on peut trouver chez nous, à voir ce qu'on fait réellement, à voir ce qui nous intéresse et à voir les défis techno qu'ils auront à relever s'ils viennent chez nous.
Et ce sera donc samedi, puisque samedi Viviatech est ouvert au grand public. Merci beaucoup,
ça
Patrick.
Ça sera jusqu'à samedi. Merci à vous et très bon salon.
Patrick Aufort, donc directeur de l'agence de l'innovation de défense. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On va parler quantique, autre sujet passionnant, avec Fanny Bouton et le patron de Candela qui nous rejoint.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et pour terminer ce premier Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là demain. Eh oui, on ne va pas vous laisser comme ça. J'accueille Fanny Bouton. Salut Fanny.
Bonjour François.
Qui fait partie de la famille de Tech & Co, vous le savez, responsable du programme Startup d'OVH Cloud. Vivatech sans Fanny Bouton, c'est impossible. Écoute, on est d'accord. Et sans OVH.
Au moins, pour moi, c'est au moins depuis l'ouverture de Vivatech et avec OVH Cloud, c'est la quatrième année.
Quatrième, voilà, puisque tu représentes OVH Cloud. On a pas mal de choses à dire concernant évidemment la présence d'OVH Cloud ici, mais aussi de cet événement qui s'est déroulé hier, c'est tout frais, France Quantum. Et dans un instant, on va accueillir Valérian Gies qui est déjà là. Salut Valérian.
Salut François.
Co-fondateur de Candela, ouais. Voilà, pépite du quantique en France, avec ce beau trophée. Sur le plateau de Tech & Co.
Il est magnifique.
Voilà, le Best Quantum Startup 2024. On va en parler dans un instant, mais évidemment, OVH présent ici.
Alors, OVH Cloud présent ici pour la deuxième année consécutive sur le village HQI, Hybrid Quantum Initiative. Donc, c'est avec le GNC, Eviden et OVH Cloud. On réunit 12 startups du quantique qui continuent à grandir, qui sont françaises et qu'on accompagne vraiment tous les ans. Donc, voilà, il va y avoir des interventions tous les jours, des petites tables rondes et des animations autour de ce sujet pour continuer à faire découvrir ce sujet très complexe, mais qui va changer le monde.
Bien sûr, quantique, IA et cloud. Hein, c'est un peu le triptyque d'OVH Cloud ici.
Voilà.
Fanny, parle-nous de France Quantum qui s'est déroulée hier.
Exactement. Donc France Quantum, pareil, troisième année de cet événement. La première année, c'était à la Tour Eiffel, 100 personnes. Ça démarrait tout tranquillement. On faisait découvrir ça. Cette année, 1000 personnes présentes, 30 exposants, 80 speakers. Un très, très bel événement de communauté. De plus en plus d'entreprises qui sont venues parler des cas d'usage. Le sujet de cette année, c'était vraiment ça. Faire découvrir comment un grand groupe peut aller sur le quantique, quels sont les cas d'usage et comment ils travaillent justement avec ces startups, parce qu'ils sont, obligés de s'acculturer, de découvrir ça.
Fanny, obligée d'avoir cette pédagogie concernant le quantique.
Oui, on a besoin de vulgariser, de trouver les bons mots, de sortir du vocabulaire des labos de recherche qui est vraiment très complexe, parce qu'en fait, ça va atteindre tout le monde, toutes les industries et tous les secteurs, que ce soit la santé, la beauté, mais aussi le trajet, la supply chain. Et donc, voilà, on acculture les CTO, tous les développeurs, mais aussi les grands patrons, pour que, comme sur l'IA, ils soient éclairés sur le sujet.
Et donc, c'est Candela qui a raflé la mise hier.
Voilà, donc Candela, start-up de l'année, je pense qu'il va pouvoir te raconter tout ça. Juste un dernier point pour OVH Cloud, on a fait aussi une annonce, on a fait le troisième émulateur quantique, donc c'est un logiciel qui émule le comportement des ordinateurs quantiques. Donc là, c'était le sixième qu'on sortait. On avait fait tous les Français, on a vraiment supporté cet écosystème. Et donc là, on a annoncé le notebook avec IBM Qiskit. C'est celui qui a la plus grosse communauté au monde, donc on est ravis de collaborer aussi avec eux pour montrer que...
collaborer avec un géant américain, c'est plutôt... important, on va
c'est
dire.
D'avancer en tout cas et de s'ouvrir à l'international et on aura d'autres annonces au courant de l'année sur ce type de sujet.
Voilà, l'expertise du quantique vue par OVH. Valérian, bravo déjà.
Ben, merci beaucoup.
Pour ce trophée.
On est infiniment fiers d'avoir eu ce trophée qui vraiment marque une année de travail 2023-2024 pleine de succès. Hein.
Ouais, c'est d'ailleurs... un peu la baraka hein, pour... Candela, quand
oui,
même.
Oui,
hein.
on n'arrête pas. Non, mais très concrètement,
50 millions d'euros l'année dernière de levée de fonds.
Juste un mois après, on a livré notre premier ordinateur quantique chez OVH Cloud. Donc, faut quand même, c'était quand même un exploit technique, puisque faire sortir un ordinateur quantique des infrastructures de Candela et les mettre dans des infrastructures industrielle à Croix, dans la zone industrielle de Lille, c'était quand même un challenge qu'on a relevé. On a relevé avec brio, puisque la machine a été inaugurée au premier trimestre 2024. Donc, toutes les choses, on aligne les éléments, on aligne les planètes, tout va bien, on a des financements, on a une technologie qui marche, on a des produits et on a des clients. Donc, tout est parfait.
Formidable. Valérian, expliquez-nous ce que vous faites. Parce que là, c'est le côté facile, fastoche. Maintenant, il faut expliquer ce que vous faites. Vous êtes sur un marché qui est passionnant. Vous fabriquez les processeurs qui vont faire travailler le quantique, en fait.
Mais très concrètement, on est sur une nouvelle génération d'ordinateurs. Ces ordinateurs quantiques réfléchissent totalement différemment des ordinateurs tels qu'on les connaît actuellement, hein, avec des 1 et des 0. Là, on va fonctionner avec des bits quantiques. Et avec ces ordinateurs, on va résoudre tous les problèmes qu'on ne sait pas résoudre actuellement. Donc, c'est des problèmes industriels pour, par exemple, développer de nouvelles batteries pour la mobilité, pour optimiser les portefeuilles financiers auprès des banques, hein, tout ce qui est bourse, finance, matériaux, mais également pour la pharmacie aujourd'hui.
Ouais, la santé, je crois que c'est
la santé, c'est un grand sujet, santé, parce que la data dans la santé, ça va être énorme. Donc aujourd'hui, il y a énormément de problématiques qu'on ne sait pas faire tourner sur nos meilleurs supercalculateurs. C'est pour ça que Candela travaille avec les plus grands supercalculateurs d'Europe et du monde, puisqu'on a déjà aussi exporté des ordinateurs au Canada, pour faire que le quantique vienne accélérer, vienne résoudre ces problèmes-là.
Et vous, votre objectif, c'est de démocratiser justement cet accès à la puissance de calcul du quantique ?
Parce que c'est ça, en fait. Ça ne peut pas marcher que s'il n'y a que la techno. Il faut une communauté. Et là, je rebondis hein, sur tous les efforts faits par OVH Cloud pour créer une communauté européenne sur le quantique. On doit la porter, on doit la créer, on doit l'accompagner. Et c'est vraiment là où Candela va investir énormément d'efforts. On a également mis des ordinateurs quantiques dans Cloud, ce qui permet à monsieur et madame, tout le monde, tous les curieux, de se connecter et de déployer des calculs sur nos plateformes.
Alors, par contre, il va falloir quand même un peu former. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet de mutualiser ces ressources-là avec des industriels et de ne pas avoir à acheter tout de suite ces machines. Le temps qu'elles arrivent à maturité aussi, il faut que chaque industrie découvre. Donc, le cloud, en effet, a un rôle important et c'est important qu'un cloud provider européen soit présent aussi sur la place sur ce sujet-là.
Avec des technologies différentes, hein. Enfin, alors bon, on a Candela, il y a Pascal qui a une autre technologie, il y a Lissébob, Kobli, enfin, on va pas toutes les citer, mais
Pour expliquer un petit peu le truc vite fait, si j'ai le temps, c'est qu'en fait, dans nos smartphones, maintenant, on sait que c'est du silicium pour faire nos transistors et dans tous nos ordinateurs et tout. Mais il faut savoir qu'au début de l'informatique, on a essayé de faire des 0 et des 1 avec de l'eau, des ampoules,
des
tout un tas de matériaux. Voilà, les fameux transistors. Et ça, actuellement, on est en train de chercher le matériau idéal qui pourra faire le ou les types d'ordinateurs quantiques. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé quel va être celui qui va pouvoir scaler à l'échelle industrialisable. C'est-à-dire qu'il y a il y a la facilité, la qualité des qubits, mais il y a aussi le rapport qualité-prix à pouvoir industrialiser tout ça. Donc, toutes ces boîtes travaillent là-dessus.
Et donc, il y a ce projet avec la DGA. La DGA a lancé un financement énorme pour justement développer, nous faire avancer sur ces technologies, puisque la DGA, à cause de son activité, va acheter des ordinateurs quantiques fabriqués en France. Et évidemment, avec Candela, on a commencé les travaux et on est dans la course pour leur fournir un ordinateur quantique utile.
Voilà, rappelons que la DGA, donc, c'est la défense. Hein.
Oui, exactement. Voilà. Non, et la très belle chose qu'on a et qu'il faut rappeler, c'est qu'on a la chance d'avoir 6 entreprises qui font des ordinateurs quantiques différents en France sur une dizaine de technologies dans le monde. La
vous,
France,
c'est le photonique, je crois.
Exactement, c'est avec des photons, Pascal, c'est avec des atomes froids, des atomes neutres. Et on a en effet 6 technologies différentes. Donc on est très très bien placé dans cette course au quantique pour développer. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est les supporter, les financer, trouver les financements pour que ça reste une technologie européenne. Il y a vraiment des enjeux très importants là-dessus. Mais on peut être super fiers.
Valérian, ben encore bravo pour ce trophée.
Merci beaucoup, merci.
Que vous allez pouvoir exposer durant ce VivaTech, bien évidemment.
On est là sur tout VivaTech, sur différents stands, donc n'hésitez pas.
Voilà, vous êtes le cofondateur de Candela. Merci beaucoup, Fanny.
Mais de rien.
On se retrouve demain.
Demain.
Voilà.
On parlera d'intelligence artificielle.
Évidemment, tu es là aussi pour nous faire découvrir ta vision de ce VivaTech. Ce grand salon dédié à l'innovation. Eh bien, écoutez, pour nous, c'est terminé. En ce premier jour, on sera là demain, bien évidemment, demain jeudi, pour vivre encore une fois cette deuxième journée de VivaTech ici à Paris, Porte de Versailles. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, les replays, les podcasts qui vous attendent. Et à demain depuis VivaTech. Salut à tous.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.